Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, je vous parle en ce 8 mars, alors qu'on a aujourd'hui une petite édition, je vais dire spéciale. Normalement, puis là, ceux qui nous ont écoutés, qui ont écouté le balado du retour de la date limite des transactions, vous allez dire, Nicolas, il nous a menti, il nous a dit que le prochain balado irait dans 2 semaines. Ben oui, mais parfois, il y a certaines occasions qui se présentent, puis... Ben écoutez, on va avoir un balado cette semaine, puis on va en avoir un en plus la semaine prochaine. Donc, 4 balados en 4 semaines. C'est le fun. Hein? On vous parle plus souvent. J'espère que vous aimez ça, chers auditeurs. Aujourd'hui à l'émission, j'ai un invité avec moi. Fait longtemps qu'on ne l'a pas eu à l'émission. Donc, Guillaume Lepage. Salut, Guillaume.
Salut, Nick.
Comment tu vas?
Ça va bien.
Faisais un petit bout, là.
On vient de finir... ça fait un petit bout. Puis on vient de finir 2 journées à s'occuper, là. À suivre les espoirs qui est en tournée médiatique à Montréal. Fait que première journée de la semaine où je suis un peu plus tranquille à la maison, un petit peu de travail à la maison. Donc ça se prend bien.
Ben oui, mais c'est ça. Là. Donc tu me voles mon punch, mais c'est la raison pour laquelle on a un balado aujourd'hui. On a eu de la belle visite dans les bureaux de la LNH. Les joueurs, vous avez peut-être vu, si vous avez écouté le match hier des Canadiens contre les Hurricanes. Les quatre meilleurs espoirs pour le repêchage de la LHMQ parmi ceux-ci?
Ouais, c'est ça. C'est 4 des 5, je crois, parce que Étienne Morin des Wildcats de Moncton avait un match à disputer. Donc, c'est certain que son entraîneur n'a pas voulu, pas voulu le laisser partir à Montréal. Mais non, c'est ça. C'est quand même 4 des 5 meilleurs espoirs de la LHMQ qui était là avec nous en studio.
Donc, on a reçu Mathieu Catafort des Moussettes d'Halifax, Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke. On a reçu Mathéo Mann des Saguenayens de Chicoutimi et Jordan Tourigny des Cataractes de Shawinigan. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va vous diffuser l'entrevue qu'on a fait avec les deux attaquants, Mathieu Catafort et Ethan Gauthier. Ça va être dans le balado en deuxième portion. L'entrevue avec Jordan Tourigny et Mathéo Mann, ça va être la semaine prochaine dans le prochain balado. Donc, pour les amateurs de hockey junior qui veulent en savoir plus, et puis les amateurs de repêchage, parce que Canadien Montréal a quelques choix dans le prochain repêchage. Donc, c'est possible qu'un de ces joueurs-là termine à Montréal, termine à Ottawa. Ottawa aussi a quelques choix. Je n'ai pas regardé là, avec les dernières transactions. Ça a bougé un peu, là, mais on a quelques choix. Donc, ça sera à suivre. Donc, ceux qui veulent en savoir un peu plus sur ces espoirs-là, ben, ça sera dans le balado d'aujourd'hui et de la semaine prochaine. Mais avant tout ça, Guillaume et moi, on va faire une petite tournée de l'actualité à travers la LNH, ce qui se passe présentement. Au niveau 4 coins. Donc, ça va être ça. Ça va être pas mal ça, je vous dirais, le menu, ce qui est au menu cette semaine dans l'émission. Avant de commencer, je vais vous dire, si vous nous écoutez par l'entremise du site web de LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes de diffusion à travers la planète. Peu importe où vous écoutez les balados, vous devriez nous trouver, on l'espère. Faites une recherche, la tasse de café LNH. La tasse de café LNH. Abonnez-vous, suivez-nous, comme ça vous êtes certain de ne jamais rater un balado lorsqu'on décide d'en faire un comme ça sur le fly, comme on dit si bien dans la langue de Shakespeare. Guillaume, parlons un petit peu de ce qui se passe à travers la LNH en particulier. Bon, commençons avec les Canadiens. Hein? Hier, défaite, je ne veux pas dire crève-cœur, mais les Canadiens auraient aimé ça, je pense, auraient aimé terminer ce match-là avec une victoire contre les Hurricanes de la Caroline, contre une puissance de la LNH. Et de l'autre côté, les Hurricanes ont peut-être eu un petit rappel que, d'ici à la fin de la saison, on ne pourra pas prendre une équipe à la légère.
Non, exactement. Je pense que pendant les 2 premières périodes de ce match-là, les Canadiens dominaient les Hurricanes. Est-ce que c'était une question de Canadien, est-ce que le Canadien était trop fort pour les Hurricanes ou les Hurricanes jouaient tout simplement pas leur meilleur hockey? Je pense qu'on a eu la réponse par la suite en 3e période. Ça a été un excellent match. Après le match, je suis allé voir du côté des Hurricanes discuter avec Rod Brind'Amour, voir la façon dont il avait vu ce match-là. J'ai trouvé ça intéressant. Il a dit que c'était la première fois de la saison qu'il se demandait ce que son équipe faisait sur la patinoire. Là. Il dit, du moins après les 40 premières minutes de jeu, je me demandais vraiment ce qu'on faisait là face aux Canadiens.
Puis soyons frères, Rod Brind'Amour ne passe pas par 4 chemins quand il a critiqué son équipe ou donné son opinion. Ce n'est pas un gars qui pile sur des œufs, comme on dit. Là.
Non, c'est ça.
Qui marche sur des œufs, qui pile sur des œufs. En tout cas, vas-y, je te laisse poursuivre.
Non, il est assez direct. Puis je pense que tu sais qu'ils disent vraiment, c'est la première fois de la saison. Il dit ça nous arrive jamais d'avoir des performances comme ça. Puis c'est je pense que la clé du côté des Hurricanes, c'est la constance. Là. C'est ce qu'on a établi dans les dernières années. Puis c'est ce que Rod Brind'Amour demande comme entraîneur à son équipe. C'est pas ce qu'on a vu hier. Puis tu sais, c'est peut-être la nature humaine dans le sens où l'équipe vient de signer une victoire de 6-0 contre le Lightning de Tampa Bay. On les a limités à 14 tirs au but dans le match. On arrive contre une équipe de fond de classement qui compte sur plusieurs joueurs de la Ligue américaine qui sont un peu en audition pour l'année prochaine. On se dit que ça va être facile, puis finalement, ben, on se fait prendre au jeu. On s'en tire quand même bien du côté des Hurricanes. Les Canadiens, défaite honorable, on pourrait dire, avec c'est quand même une peu importe la manière dont les Hurricanes jouaient, je pense que le Canadien a joué à sa façon, avec détermination et tout ça. Ça a été un bon spectacle qui est allé jusqu'en tir de barrage. Le sixième ronde des tirs de barrage, ça a été assez divertissant pour la foule du Centre Bell.
Ouais, avant de parler de celui qui a marqué lors de le but gagnant en tir de barrage, je vais parler un peu de Jake Allen. Grosse soirée hier, une autre. Ça va... Ben, tu sais, c'est difficile de dire ça va bien quand tu joues pour une équipe de Buffalo classement, mais lorsque tu regardes depuis le 18 janvier, une fiche, il joue pour 500, là, dans le fond, là, 4-4-2. Mais moi, ce qui m'impressionne, bon, au niveau de ses statistiques, moyenne de buts alloués de 2,88, ce qui est bon dans une équipe qui donne autant de buts, pourcentage d'arrêt de 912, et surtout, moi, statistique que j'apprécie, ceux qui lisent mes chroniques sur les gardiens, top 25 des gardiens sur le site de lnh.com, au niveau de ses départs de qualité, c'est-à-dire quand ton pourcentage d'arrêt est supérieur à 900 dans un match. Dans ses 10 derniers départs, il y en a 7 matchs comme ça, Allen, où il a justement... C'est que tu gardes ton équipe, peu importe ce qui se passe, tu gardes ton équipe dans le match, tu lui donnes une chance de gagner. 70%, là, il est parmi... Là, à peu près parmi le top 10, 11-12e là, dans la LNH, là, parmi les gardiens... Là, tu sais, les gardiens réguliers, là, par exemple, les gardiens qui ont joué peut-être un 6 rencontres. Là, je vais vous... Il est parmi les 6 rencontres, il est 11e. Bon, voilà, donc quelques gros noms devant lui. Là, Linus Ullmark, Sergei Bobrovsky, Philippe Gustafsson, pour qui ça va très bien. Mais bon, Allen est là-dedans. Hier, quelques arrêts spectaculaires, à un point tel que soudainement, on oublie un peu que Samuel Montembeault était celui qui avait eu une séquence vraiment de qualité avant que ce soit celle de Allen. Comment tu analyses la situation des gardiens présentement chez le Tricolore?
Ben, c'est un bon point que tu amènes avec Allen. Moi, j'ai l'impression que depuis qu'il est de retour de sa blessure, on voit moins souvent des mauvais buts. Il accorde moins souvent des mauvais buts. Là. Souvent, début de match, début de période, on se faisait marquer rapidement un ou deux buts quand c'était Jake Allen qui était devant le filet. Puis j'ai l'impression qu'il y a moins ça. Est-ce que c'est un changement de préparation dans sa préparation, changement de mentalité peut-être? Ou simplement le fait qu'il se sent mieux devant son filet. C'est peut-être un mélange de tout ça. Mais c'est ça, du côté... On disait, même au retour de Jake Allen, on se demandait si c'était pas Samuel Montembeault qui était rendu numéro un. Maintenant, tu as raison de dire que, bon, je pense qu'on est de retour à un système d'alternance.
Avec même Allen, un petit avantage à Allen,
avec un petit penchant pour Allen. Mais tu sais, si je suis Martin Saint-Louis, moi, j'y vais avec le gardien
hot
qui me donne la meilleure chance de gagner. Là, tu sais, peu importe le statut de numéro un, de vétéran, jeune gardien, je pense qu'il ne faut pas s'enfarger dans les fers du tapis. Là. On va y aller avec le gardien qui nous permet d'avoir les meilleures chances de l'emporter. Puis hier, Jake Allen, c'est exactement ce qu'il a fait. Là. Moi, j'ai adoré son arrêt... le two-pad stack,
Bob Essensa.
Moi, quand j'ai commencé à prendre la position de gardien, c'était encore comme ça qu'on faisait nos déplacements. Là. Donc, de côté, les deux jambières, une par-dessus l'autre. On n'était pas à l'époque des déplacements style papillon et tout ça. Mais c'était un moment important dans le match. Il fallait qu'il fasse l'arrêt. Puis c'est ce qui est venu instinctivement. C'était spectaculaire. Puis ça a fait le travail. Des bons moments pour Jake Allen. Puis je pense que c'est ça. Tant que ça va bien aller, ben Martin Saint-Louis va continuer avec cette recette-là.
Je ne sais pas quelles vont être les décisions lors de la saison morte. Bon, Allen a signé un nouveau contrat, est à Montréal ou du moins sous contrat pour les deux prochaines saisons. Samuel Montembeault a une année à son contrat qui lui reste l'an prochain. A signé c'est un contrat de 2 ans qu'il empoche. Donc, Donc, l'année prochaine, ça devrait être les deux gardiens, mais j'ai l'impression, avec Kaden Primeau qui tarde à se développer, c'est bien possible qu'avec ce qu'on voit d'Allen, avec ce qu'on a vu de Montembeau, ben, on va y aller pour une alternance là, pour les deux, trois prochaines saisons, là, selon qui va signer un contrat éventuellement.
Oui, puis les choses ne pressent pas du côté du Canadien. Je pense qu'on peut se permettre de garder ce duo-là tant que ça va fonctionner. J'ai hâte de voir, par contre, par la suite, est-ce qu'on va identifier Montembeau comme le gardien qui va prendre le lead éventuellement quand l'équipe va être un peu plus à maturité puis qu'on va aspirer au moins à une place en série? C'est une bonne question. Est-ce qu'on va regarder du côté du marché des joueurs autonomes? C'est toutes des questions que l'état-major, je pense, on a le temps
On n'a pas la réponse présentement, là.
Non, c'est ça. Kent Hughes a le temps d'y penser, de voir comment les choses se dessinent. Est-ce que Kaden Primeau va connaître une année d'éclosion l'an prochain? C'est toutes des choses qui sont possibles parce qu'un gardien, on le sait, ça prend majoritairement plus de temps. Donc,
on a la preuve, là.
Exact. Ouais. On a le luxe du temps du côté des Canadiens parce que c'est pas l'an prochain qu'on va viser une place en série. Peut-être probablement être plus compétitif que cette année, là, certainement. Mm-hmm. On va peut-être être comme dans la lutte un peu, dans une situation comme celle dans laquelle les sénateurs se retrouvent en ce moment. Je pense que c'est pas fou d'aspirer à ça du côté des Canadiens dès l'an prochain, mais je pense que personne va être vraiment déçu si le Canadien ne fait pas les séries l'an prochain. Donc, on a le luxe du temps, on a le temps d'observer les choses, on a le temps de voir comment Kaden Primeau se développe. Donc, laissons les choses aller avec ce duo-là qui est sous contrat. Je pense qu'il n'y a pas de question à court terme là, qui se présente pour l'état-major.
Guillaume, Jason Jesperi Kotkaniemi, c'est lui qui hier a donné la victoire aux Hurricanes en fusillade. Et c'est typique de la séquence qu'il connaît présentement. J'ai regardé ses statistiques, puis dans ses 13 derniers matchs, il a 13 points. Est-ce que tu as parlé, là, est-ce que présentement, Jesperi Kotkaniemi, alors qu'on avait beaucoup de doutes, A, sur son éthique de travail, B, sur son réel talent, est-ce qu'il est en train, à seulement 22 ans, là, d'éclore là, présentement? Là?
C'est une bonne question parce que c'est pas... on regarde ses statistiques, là, je pense qu'avant le match d'hier, il y avait 30 points. Là, c'est pas...
C'est deux phases sa saison. Là, c'est une bonne séquence, c'est une saison moyenne.
Exact. Puis tu sais, dans sa séquence, il faut rappeler qu'il y a quand même un match de 5 points là, contre le Lightning de Tampa Bay. Il l'a fait, ce match-là, on ne l'enlève pas. Mais ça vient influencer certainement la bonne séquence. On lui a demandé, y a-t-il quelque chose qui a changé dans ton jeu? Puis il avait l'air de dire que lui, depuis le début de la saison, joue de la même façon. Maintenant, les points viennent. Je pense que le fait qu'il est jumelé quand même à Martin Nikas et Teuvo Teravainen, ça lui nuit pas. C'est sûr, il joue sur un trio offensif. Rob Brind'Amour a parlé un peu du fait qu'à la date limite des transactions, l'équipe n'est pas allée chercher un autre centre. Donc, c'est un peu un vote de confiance envers Kotkaniemi. On sait qu'il peut faire le travail, même en série. Je pense que ce que Rod Brind'Amour apprécie beaucoup, c'est que Kotkaniemi semble, justement, tu parlais d'habitude de travail, semble un peu plus impliqué dans son développement qu'il l'était peut-être à l'époque où il jouait avec les Canadiens. Mm-hmm. Je pense que c'était un point d'interrogation qu'on avait. Est-ce qu'il mettait tous les efforts, toutes les chances de son côté pour s'assurer d'un développement en bonne et due forme? Je pense qu'avec les Hurricanes, avec Rod Brind'Amour, il n'y a pas vraiment le choix de montrer ça parce que...
S'il y en a un qui ne prend pas les demi-mesures, c'est bien Rod Brind'Amour.
Exact. Là, c'est le genre d'entraîneur qui va passer une demi-heure après la fin de la pratique de son équipe à faire des stop and go sur la patinoire. Là. Donc, lui a encore les habitudes de travail qu'il avait quand il était joueur. Donc, je pense que ça donne un exemple.
Rod Brind'Amour n'a jamais de bédaine. Tu sais, s'il y a quelque chose de sûr dans la vie, Rod Brind'Amour n'a jamais de bédaine.
C'est avec Martin Saint-Louis, je pense que c'est un des duos d'entraîneurs là, les plus en shape, en forme, de la Ligue nationale. Ça, il n'y a aucun doute. Fait que je pense que ça transparaît sur son équipe. Puis c'est ce qu'il veut voir de ses joueurs. C'est ce qu'il disait qu'il voit de Kotkaniemi depuis le début de la saison. Donc, il le récompense en le mettant sur un trio offensif. Puis ça fonctionne bien en ce moment. Donc, de là à parler d'éclosion, je pense qu'on peut encore attendre, hein, seulement 22 ans, mais ça va. On va pouvoir voir ce qui va devenir de son cas dans les prochaines années.
Et bien évidemment, chez les Hurricanes, on se croise les doigts parce qu'il reste encore 7 saisons à son contrat qu'il a signé, contrat de 8 ans avec un salaire de 4,82 millions par année. Donc, si ça s'avère, s'il y a explosion, s'il y a une progression puis il devient un joueur d'impact, éventuellement, très rapidement, ce contrat-là va devenir une aubaine. Mais pour l'instant, exact. Ça a coûté cher. Avec l'offre hostile de 8, combien? 8,1 millions? Que c'est, non, 6,1 millions, excuse. Ouais. Pour l'instant, ça coûte cher un peu aux Hurricanes. Mais bon, ça peut éventuellement...
C'est le pari d'investir maintenant pour que ça rapporte ensuite.
Ça,
on verra
ça
bien
reste toujours ça bien un choix de troisième choix total. Puis oui... Même tu peux être repêché premier, puis ça ne fonctionnera pas, busté, comme on dit là, dans le jargon. Mais bon, ça reste qu'on avait, y avait du moins un certain potentiel. Puis souviens-toi, l'année de repêchage, Kotkaniemi était sorti un peu de nulle part. C'était un joueur qui était classé beaucoup, beaucoup plus bas, puis qui avait connu une grosse progression dans son année. Bon, cette progression-là était peut-être un peu pas réaliste. Peut-être, c'était peut-être un peu surestimé, mais bon, si on regarde sa courbe de développement présentement, avec ce qu'il fait présentement, et pas si en retard que ça par rapport à s'il avait été repêché, je ne sais pas, 12-13e, là, par exemple, dans un endroit plus réaliste. Là.
Je pense que c'est ce qu'on va reprocher longtemps aux Canadiens, c'est de l'avoir sélectionné à ce rang-là. Parce que ça peut être un joueur de calibre de la Ligue nationale, mais là, il vient avec l'étiquette de 3e au total. Mm-hmm. Donc, on s'attend à ce qu'il devienne un Tim Stutz là rapidement, un joueur
un
d'impact.
Un Brady Tkachuk aussi qui a été repêché juste après, là.
Aussi, mais je pense qu'avec Kotkaniemi, le problème, c'est son rang de repêchage. Il n'y a personne qui va nier que c'est un joueur qui a le talent pour jouer dans la Ligue nationale, mais ensuite de ça, est-ce que c'est un joueur de premier plan, un joueur d'impact dans une équipe? Ben ça, c'est l'autre question. Ouais. D'ailleurs, Nick, j'ai une petite anecdote qui était ben funny après le match d'hier soir. On est arrivé, on était trois ou quatre journalistes. Là. Il y avait pas, je pense qu'il y avait le site web des Hurricanes qui était là. Il n'y avait pas de journaliste adverse, mais on se positionne autour de Kotkaniemi, puis la collègue de la presse, Catherine Harvey-Pinard, vient pour poser la première question du point de presse. Puis Kotkaniemi l'interrompt, puis il dit « Est-ce que c'est ta face qui était à l'écran géant tantôt? » Là, Catherine répond « Oui ». Tu sais, on s'est tous surpris parce que, je veux dire, il y a des panneaux publicitaires ici et là pendant le match, mais je veux dire, c'est pas placardé partout dans le Centre Bell en tout temps.
Il n'y a pas son visage sur la baie vitrée en arrière du but. Là.
Non, c'est ça. Puis là, on était déjà surpris qu'il ait remarqué ça. Puis là, ensuite de ça, il dit le gars de l'autre côté, c'est ton frère. Hein? Donc, il a fait l'association avec le nom parce que le nom de Catherine est à côté de sa photo. Là, il a fait de l'association avec Raphaël Harvey-Pinard. Donc, c'était assez drôle et ça a beaucoup gêné la collègue Catherine là, qui était un petit peu, surprise par la tournure de ce point de presse-là.
Qu'on le veuille ou non, c'est pas nécessairement une situation qui est facile à gérer pour elle. Puis même, j'imagine, un peu pour lui, en ce sens qu'éventuellement, ils vont se retrouver dans le même vestiaire. Elle va devoir aller lui poser des questions.
Ça, je pense que...
Je sais qu'on fait attention là, de que ça se produise pas, j'imagine, là, mais...
Ouais, du côté de la presse, je pense que Catherine ne peut pas couvrir le Canadien en tant que tel, mais je pense qu'on l'envoie ici et là, dans le vestiaire de l'équipe adverse.
Ça se peut, par contre, qu'elle pose une question à propos de son frère à l'équipe adverse. Je veux dire, c'est ça, le hockey. S'il en marque trois dans la même soirée, ça se peut qu'il y ait une question. Là.
C'est ça, c'est une drôle de situation, mais en même temps, tu sais, le rêve de Catherine a toujours été de couvrir la Ligue nationale, de couvrir le Canadien. Là, elle est aux portes de son rêve, puis en même temps...
Son frère est au port de son
rêve. Puis là, c'est comme une situation, une drôle de situation dans laquelle il se retrouve parce que ça vient un peu bloquer Catherine sur certains aspects, mais je comprends tout à fait le. Il faut faire attention aux.
Il y a un concept d'objectivité qui est important dans la presse.
Exact. Les apparences de conflit d'intérêts et tout ça. Fait que je pense que il faut être très prudent dans ce dossier-là, mais hier, c'était quand même sympathique là, avec Kotkaniemi qui a fait les associations pendant le match. On ne sait pas où il a trouvé le temps de faire tout ça. Mais
des fois, sur le banc, des fois, il avait l'air un peu perdu, un peu en train de regarder un peu partout, Kotkaniemi.
Il regarde les publicités qui passent sur le tableau.
S'il n'avait pas joué à Montréal aussi, T'sais, il n'aurait jamais remarqué ça, mais le fait qu'il joue à Montréal, ça. Bon, il y a déjà les repères, tout ça, donc ça c'est bien évident.
Il
n'y
a pas 53 personnes qui s'appellent
Harvey
Pinard.
Non,
vie.
C'est ça, exactement. C'est pas fréquent, bien dit. Hey, Guillaume, on va se déplacer un petit peu. On va aller à Boston parce que ça va plutôt bien pour les Bruins présentement. Samedi, on a signé une dixième victoire de suite contre une victoire de 4-3 contre les Rangers de New York. D'ailleurs, les Rangers, on va en reparler plus tard parce que c'est l'adversaire des Canadiens jeudi au Centre Bell. Donc, dixième victoire de suite pour les Bruins. Durant cette séquence-là, on est deuxième dans la Ligue pour les buts marqués, troisième pour les buts contre. Donc, c'est pas un aspect qui va bien présentement chez les Bruins, c'est tout. Puis même lorsqu'on a des blessés, on trouve les moyens de les remplacer. Nos acquisitions qu'on a faites à la date limite des échanges, ça fonctionne. Là, on recommence à regarder vers la séquence de 13 victoires des Devils du New Jersey, qui est la plus longue cette année. Je regarde cette équipe-là, je regarde justement là, comment on a été chercher bon, cet été Jim Montgomery comme entraîneur. On a remplacé Bruce Cassidy, qui était là depuis longtemps, puis qui... Tu sais, veux pas, les résultats étaient là pour Cassidy était en série éliminatoire chaque année, mais on nous disait que ça nous prenait une nouvelle voie. Puis je ne sais pas ce que tu en penses, j'ai l'impression que Jim Montgomery est présentement l'entraîneur parfait pour cette équipe-là. Parce qu'un peu comme souvent on parlait des pingouins, puis on disait souvent la mentalité next man up. Combien de fois les pingouins ont perdu des joueurs, ont eu des blessés, puis n'importe qui se présentait, qui arrivait de la Ligue américaine ou peu importe, rentrait dans le moule puis se mettait à produire. Je regarde Orlov, là. Bon, ça va se calmer, là, Orlov. Là. Ça ne peut pas durer. Là. Mais 9.5 matchs pour un défenseur, pas numéro 1, pas sur le premier avantage numérique, c'est assez bon. Là. Pasternak produit, Patrice Bergeron produit. Brad Marchand a 8 points en 10 matchs, ça le met 6e meilleur marqueur là, dans les 10 victoires là, des Bruins. Donc, c'est pas seulement le premier trio qui fournit. As-tu cette impression-là que... Jim Montgomery a juste eu à faire attention à ce qu'on lui remettait dans les mains. On dit, on t'a donné une Porsche, là. Brise-la pas. Fais juste à conduire.
Non, c'est ça, je pense que ça illustre bien la force de la culture d'une équipe. Là. À Montréal, on parle beaucoup de ce que le Canadien tente de créer en ce moment. Avec la mentalité, la manière de jouer. Je pense que du côté des Bruins, avec le noyau qui est là depuis... plusieurs années, le leadership, les vétérans comme Bergeron, Marchand, même on peut rentrer Pasternak dans le moule. Je pense que peu importe qui va arriver avec cette équipe-là, on n'a aucun autre choix que d'adhérer au plan, puis d'adhérer au système, puis de jouer à la manière des Bruins. Fait que, tu parles de Orlov, même un gars comme Tyler Bertuzzi qui a été acquis à la date limite, ben ces gars-là arrivent, puis la transition se fait bien parce qu'on rentre dans le système des Bruins, on a un leadership qui est fort, on suit les vétérans. Donc, ça illustre, je pense, la force de la culture d'une équipe. Puis je pense que c'est un message fort parce que tu disais tout fonctionne pour les Bruins, mais tout fonctionne tout le temps pour les
ouais.
Bruins.
Ouais, c'est
depuis
pour ça.
De la saison, il n'y a pas eu de passage à vide, il n'y a pas eu de mauvaise séquence, il n'y a pas eu de... Parce qu'on a une manière de jouer, on a un système, on a une mentalité, puis on sait exactement à quoi s'en tenir. Puis je pense que ça fait en sorte, avec le talent, évidemment, là, on a des joueurs de talent, on a un gardien qui fait les arrêts. Mais tu sais, Linus Ullmark n'avait jamais montré des choses similaires ailleurs.
Plusieurs
arrive
voyaient...
avec les Bruins, ça fonctionne. Ben, tu sais, c'est parce qu'il y a une culture d'équipe. Je pense que ça peut être assez inquiétant pour toutes les autres équipes de la Ligue là, parce que cette équipe-là en série a de l'expérience. Puis de ce que je vois en ce moment, semble avoir tous les morceaux là, pour aller jusqu'au bout. Je pense que si c'était juste de moi, je commencerais déjà à graver le nom des Bruins
grosse prédiction.
Le trophée.
Grosse prédiction venant d'un gars qui avait prédit que les Bruins rateraient les séries. Mais bon, c'est correct. Moi aussi, je les voyais tout juste à l'extérieur des séries. Mais bon, tu te souviens, là, qu'est-ce qu'on disait au début de saison? Brad Marchand devait être absent jusqu'en décembre. Charlie McAvoy, c'est pas ça qui est arrivé. Là, des fois, je me dis peut-être que soit on a une formule magique, je sais pas ce qu'on met dans l'eau à Boston, là, mais ça fonctionne, ça leur permet de revenir au jeu. David Krejci, je sais pas quelles étaient tes attentes, toi, après avoir passé une année en République tchèque.
À l'âge qu'il avait.
À l'âge qu'il avait en plus. Là, bon.
Ça sentait plus la fin que le renouveau.
Oui, puis il signe un contrat d'un an à 1 million, tu sais, tu tempères tes attentes à ce moment-là. Là, c'est vraiment ça. Mais tu sais, M. Pousse-Lénombe qui a pris la relève de McAvoy en début de saison. Jim Montgomery, visiblement, ça fonctionne. Puis il l'a dit à Montgomery, en entrevue, il a dit, écoute, moi, tu sais, il y a des fois où je tente d'en faire peut-être un petit peu trop. Puis les vétérans de l'équipe ont dit, calme-toi, là, Jim, on s'en occupe, ça va bien aller. T'sais, Patrice Bergeron, il est là depuis toujours. Puis là, moi, la question qui me vient, c'est Patrice Bergeron, on parlait peut-être de retraite cet été. Hey, avec la saison qu'on connaît chez les Bruins présentement, tu veux-tu vraiment parler de retraite? Il est encore un des meilleurs joueurs défensifs de la Ligue nationale de hockey, un joueur all-around, un joueur, voyons, le terme ne me vient pas. Complet, merci, d'un bout à l'autre de la patinoire. Puis, à la défense de Bruce Cassidy, parce que c'est facile d'en faire le bouc émissaire là, quand on regarde ça, présentement, les Golden Knights de Vegas, malgré toutes leurs blessures, malgré la perte de gardien, depuis 10 matchs, on a la 5e meilleure défensive de la NH. Donc, le système de Bruce Cassidy, tu sais, quand tu dis un entraîneur parfait pour le moment parfait, c'est ça pour Montgomery, puis c'est probablement ça à Vegas avec Bruce Cassidy, ce qui fait que Vegas se bat toujours pour le sommet de la section Pacifique. Donc, ça fonctionne des deux côtés. Un endroit où ça fonctionne moins, Ryan O'Reilly, les belles grosses acquisitions pour les Maple Leafs de Toronto, a subi une fracture à la main, a été placé sur la liste des blessés à long terme. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que tu dois rater un minimum de 24 matchs, 24 jours, 10 matchs, grosse différence. Sheldon Keefe a dit il va être de retour, on est pas mal certain, pour les séries éliminatoires. Mais il reste que la perte d'O'Reilly, alors que tu veux mettre en place un système, créer de la chimie avec son arrivée, surtout qu'on l'a vu évoluer au centre du deuxième trio et Tavares à l'aile gauche, ce qui n'était pas nécessairement ce qu'on pensait au début, avait commencé sur le troisième trio pour donner une ligne de centre d'enfer aux Maple Leafs, mais reste que sur le deuxième trio, ça te donne deux premiers trios incroyables avec celui d'Austin Matthews. À quel point tu penses que ça va venir leur nuire aux Maple Leafs de peut-être pas rentrer avec l'élan qu'on voulait en séries éliminatoires, avec toutes nos pièces au bon endroit?
Ben c'est ça exactement. T'sais, on vient de parler des Bruins. La recette est établie, les trios sont établis, la chimie, on sait qu'est-ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Du côté des Maple Leafs, ben, je pense que justement, on aurait aimé avoir plus de temps pour faire des expériences au centre. Tu parlais de Tavares à l'aile. Est-ce que O'Reilly pourrait être utilisé dans un rôle de troisième centre shutdown, pour reprendre l'expression anglaise, en série? C'est toutes des expériences qu'on n'aura pas le temps de faire si O'Reilly revient seulement pour les séries. Donc là, on va se retrouver en première ronde contre le Lightning de Tampa Bay à essayer peut-être de trouver...
Lightning, on n'est plus sûr de la manière que ça... On en reparlera, mais de la manière que ça va présentement, là...
Ça devrait se replacer si la tendance se maintient. Là, la tendance des dernières années se maintient, ça devrait se replacer. Mais si on se retrouve contre une équipe comme le Lightning qui sait exactement la recette secrète en série, puis qu'on est encore à faire des expériences du côté des Maple Leafs, ben, je pense que si on perd un ou deux matchs justement à établir cette chimie-là, à trouver les bonnes combinaisons de trio, la bonne formule, ben, on va peut-être partir un peu en arrière dans une série qui risque d'être très serré en première ronde. Donc oui, ça peut avoir un impact. D'un autre côté, O'Reilly, c'est un vétéran, c'est un gars d'expérience qui a gagné la Coupe cette année avec les Blues de Saint-Louis. Je pense qu'il sait un peu comment gérer la situation aussi. C'est pas un jeune qui arrive, qui a été blessé longtemps puis qui revient puis que là, il sait plus trop comment agir dans une nouvelle équipe. Je pense qu'O'Reilly a la maturité puis l'expérience pour bien s'adapter, mais c'est certain qu'au niveau des expériences sur les différents trios des Maple Leafs, ben Sheldon Keefe va devoir faire peut-être des devoirs un peu plus sur papier que de les expérimenter en vrai là, sur la patinoire.
Oui, donc je dirais bien, on va se croiser les doigts du côté des Maple Leafs, mais là, O'Reilly ne peut pas, là, fracture à la main, donc c'est... Excusez-moi. mais parlons du Lightning. Grosse décision de la part de John Cooper samedi de laisser sur le banc Steven Stamkos, Braden Point, Nikita Kucherov, tes gros canons dans une défaite de 5-3. Puis Cooper s'est pas défilé. Il dit on a des standards, tout le monde doit suivre nos standards. Puis c'est pas le cas présentement de ce trio-là. Moi, j'ai fait jouer les joueurs qui pouvaient nous donner une chance de victoire. Alors on a laissé ces trois-là. Est-ce que c'était la claque au visage que le Lightning avait besoin, ou du moins que ce trio-là avait besoin pour revenir en force? Parce que là, si on regarde le classement, on a 5 points de retard sur Toronto. Donc là, lentement mais sûrement, on commence à voir que ça va peut-être être... On n'aura pas l'avantage de patinoire lors de cette première série-là. Derrière, bon, les Islanders sont derrière à 7 points avec 2 matchs de plus de jouer. Pittsburgh, on a 8 points de retard avec un match en main. T'sais, on est confortable chez le Lightning. On n'est pas inquiet par rapport à ce qui se passe derrière nous. Mais il reste que tu veux rentrer au sommet de ta forme en séries éliminatoires, puis c'est pas ce qu'on offre présentement à Tampa Bay.
C'est pas. On connaît les standards du Lightning, puis on sait que John Cooper est un entraîneur qui tient à ça, puis que au fil des années, on a appris à le connaître, là, que quand ça fait pas son affaire, il va passer ses messages. Mais là, d'avoir un message aussi fort que les trois cloués au banc pendant une période complète. Hier, on avait une discussion avec les collègues montréalais, puis on se demandait, tu sais, c'est-tu l'usure du temps, tu sais, l'entraîneur, est-ce qu'il en est au point où il faut qu'il prenne des décisions radicales comme ça pour que son message continue de passer? Parce que, veut pas, ça fait longtemps que John Cooper est là, c'est le même noyau et tout ça. Mais tu sais, on parlait des Bruins, Bruce Cassidy, de l'extérieur, on était tous surpris de le voir partir parce que tout semblait fonctionner, mais à un moment donné, c'est ça, c'est le temps, le temps fait les choses, les joueurs sont peut-être un peu moins réceptifs au message. Donc, c'est peut-être la conséquence de ça, de voir John Cooper prendre une décision aussi forte que celle-là.
Puis en plus,
est-ce que c'était la...
Ouais, vas-y. Ouais, mais j'allais dire, puis il est là toujours bien depuis la saison 2012-2013 de Cooper, là. C'est pas... C'est pas des adaptations avec un nouvel entraîneur, un entraîneur qui est là pas là depuis longtemps. Là. Cooper, il est là depuis longtemps. Est-ce que le message, lentement mais sûrement, la qualité de son message s'est affaibli, c'est moins réceptif du côté des joueurs ou c'est juste une mauvaise passe?
C'est ça. On peut. C'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'était la claque au visage dont le Lightning avait besoin? Ben, on verra bien dans les prochains jours. Faut aussi se rappeler que c'est une équipe qui sait se pacer, je ne sais pas si tu as le terme.
Ouais, gérer ses efforts, gérer son niveau d'effort.
Gérer son énergie, niveau d'effort. Ouais. C'est une équipe qui sait exactement ce qui s'en vient là, dans les prochains mois. Si eux, ils ont l'objectif d'aller jusqu'au bout. Ils savent que ça va être 2 mois de série éreintant, tout ça. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça aussi. On parlait de la nature humaine tantôt. Il y a peut-être un petit relâchement, là, justement, avant le dernier droit, de gérer ses énergies, d'essayer de regagner le niveau d'émotion dont ils vont avoir besoin une fois en série. Donc, je ne m'inquiéterais pas trop du côté du Lightning, mais ça amène quand même son lot de questions.
Ben, gars, ça semble avoir fonctionné parce que hier, Kucherov contre les Flyers, 2 buts, une passe. Donc, 2 buts en avantage numérique, but gagnant. Braden Point a amassé un point. Stamkos a été blanchi. Mais bon, Kucherov, écoute, tu sais, je pense que c'est des vétérans, justement, qui en ont vu. Puis à un moment donné, ben écoute, ça se peut que l'entraîneur, il n'aille pas tard. Ah, il a raison. Finalement, on va s'ajuster. C'est comme une entrevue de fin d'année dans un emploi, là, dans ton review, ton...
Une évaluation.
Merci beaucoup. Ton évaluation de fin d'année au travail, là. Tu sais, ton patron, il fait juste te placer quelques points. Puis là, j'espère que le mien et le note n'écoute pas parce qu'il va peut-être vouloir le faire plus souvent. Mais tu sais, il place quelques points, il rappelle quelques choses. Puis il dit, c'est pas fou. Puis je vais donner un deuxième effort là. Bon, ben, gars, c'est comme ça dans nos emplois quotidiens. C'est pas tant différent que ça dans une chambre de hockey. Mm-hmm. On poursuit avec. Bon, parlons-en. Les Rangers de New York sont au Centre Bell jeudi. Ce sera le premier match de Patrick Kane à l'étranger, sous toute réserve, je ne suis pas certain. En tout cas, Patrick Kane a joué 2 matchs jusqu'à présent avec les Rangers. Ça va moins bien. Ça a pas très... T'sais, tu voyais qu'il était timide, tu voyais qu'il s'est cherché, puis justement, ça a apparu au niveau de ses performances. Moi, j'ai regardé le match contre les Sénateurs le tout premier, puis il n'a pas été un facteur, Patrick Kane. Soyons francs, là, un petit peu invisible, malgré le fait que il est placé sur un trio assez, assez redoutable, merci, avec Artemi Panarin, un joueur avec qui il a de l'expérience. On joue ensemble chez les Blackhawks et Vincent Trocheck, en plus d'être sur le jeu de puissance. Donc, Kane, pour l'instant, pas de points à ses 2 premiers matchs, même si une utilisation moyenne là, qui tourne autour de 20 minutes et demie. Est-ce que, bon, là, on n'a pas joué, là. On a eu quelques journées de repos. Notre dernier match, c'était samedi contre les Bruins, comme on disait plus tôt. On va avoir eu des entraînements. On va avoir eu le temps de se placer. T'attends-tu à ce que demain, au Centre Bell, Patrick Kane, on voit Patrick Kane, ce qu'il est capable d'offrir avec les Rangers?
Ben, il y a des bonnes chances parce que, bon, le Canadien n'est pas une des puissances de la Ligue nationale. Donc, l'occasion serait belle, justement, pour lui de se réveiller puis de commencer ce nouveau chapitre-là avec une bonne prestation offensive. Du côté des Rangers, je trouve que à l'approche des séries, on ne voit pas une équipe qui est très convaincante.
Non.
C'est un peu... autant en début de saison ou à certains moments de la saison, on se disait « Ah, les Rangers, je pense que ça va être une équipe à surveiller en série. » Tu sais, l'année passée, on a fait un long bout de chemin. Je pense que techniquement, l'équipe est rendue à l'autre étape. Là, on a fait des grosses acquisitions. Tarasenko, Patrick Kane pour venir solidifier cette attaque-là. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas du côté de New York, mais pour l'instant, je pense que moi, ils doivent encore faire quelque chose d'ici la fin de la saison pour me convaincre justement qu'ils ont l'équipe parfaite pour aller jusqu'au bout. Parce qu'en ce moment, je pense que il y a certains points d'interrogation du côté de lui.
Un des points d'interrogation, il est devant le filet. Igor Shesterkin, c'est pas le Igor Shesterkin qu'on a vu dans les dernières années. Là.
Non, absolument pas. Puis moi, ça me touche personnellement, Nick, parce que c'est mon gardien de fantasy. Mais honnêtement, depuis, tu sais, j'avais l'impression que Shesterkin, je sais que ça ne va pas super bien, mais là, je suis allé voir les statistiques, j'ai mis une date au hasard, 1er janvier 2023. Depuis ce temps-là, 17 matchs, 17 départs, 10 victoires, 5 défaites, 2 défaites en prolongation, taux d'efficacité de 8,93, moyenne de 3,10. Derrière une équipe comme les Rangers, c'est quand même... c'est vraiment
surprenant.
Pas... Non, c'est ça, c'est surprenant, c'est vraiment pas au standard. Qui nous a habitués surtout l'année dernière. 8,93 d'efficacité, là, honnêtement, tu parlais de départ de qualité tantôt. Départ de qualité, la barre est à 900, donc ça veut dire qu'il ne dépasse pas souvent
la barre
de départ de qualité. Donc ça aussi, c'est inquiétant, surtout que tu sais, Jaroslav Halak, autant il y a des qualités comme gardien adjoint, que je pense pas que c'est le gars que tu vas envoyer devant le filet en série là, si les choses ne fonctionnent pas du côté de Shesterkin. Est-ce qu'il va être en mesure dans le prochain mois de se redresser puis de rentrer en série avec le vent dans les voiles, avec la confiance qu'il avait l'an dernier? C'est une question qui reste à répondre du côté des Rangers, du côté de Shesterkin. Mais pour l'instant, c'est un point assez inquiétant là, pour les Rangers.
Pour répondre à ta demi-question, là, j'ai regardé à partir de la mi-janvier, là, le taux de le pourcentage de départ de qualité de Shesterkin, c'est du 33%. Là. T'es avec Jacob Markstrom pour qui ça va très mal. Colin Delia. Carter Hart fait mieux que toi là, en avant de toi. Avec une équipe qui gagne tout simplement pas. Donc, c'est pas. Puis tu as regardé le 1er janvier. Là, je regarde ses statistiques. Une chance de regarder au 1er janvier parce qu'à partir de la mi-janvier, c'est encore pire. C'est 883 de pourcentage d'arrêt. Là.
Mm-hmm.
C'est pas bon. Là. C'est vraiment pas bon. Là. Puis
plus on avance, moins c'est bon.
Donc, moins, c'est ça. Donc, c'est vraiment une mauvaise
chance. On avance vers les séries.
C'est ça. Donc, j'ai l'impression que pour les Rangers, cette séquence-là là, de sans jouer le dimanche à mercredi, sans jouer à aujourd'hui, là, dans le fond, là, d'avoir pu pratiquer, d'avoir pu vraiment faire une remise à zéro, là, je pense que ça va aider. Regardez-les, attention, ça se peut que ça explose demain au Centre Bell. Demain, oui, ou aujourd'hui, si vous écoutez jeudi, ou hier, si on est vendredi, tout dépendant. Et en terminant la section, cette portion actualité, je veux parler de l'autre équipe, l'équipe l'autre bord de la rivière Hudson, les Devils. Ça va beaucoup mieux. Ça va très bien, à vrai dire, pour les Devils. Eux, on ne se pose plus la question. Soudainement, les Devils qui se sont approchés. Là, on est à 4 points des Hurricanes de la Caroline au sommet de la section métropolitaine. On a 6 victoires dans nos 3 derniers matchs. Timo Meier a joué ses revenus de sa tête blessée. Donc, a joué ses 2 premiers matchs avec les Devils. Sa nouvelle équipe a obtenu un but en 2 matchs. Mais celui qui je veux parler, c'est Dawson Mercer. Tu le connaissais, Mercer, lorsqu'il était chez les juniors. On s'attendait. C'est un joueur quand même, bon, un certain potentiel, mais peut-être pas si offensif que ça. On le voyait comme un joueur complet. Depuis le 16 février, là, c'est le deuxième meilleur marqueur de la Ligue, Dawson Mercer. Il a 10 buts, 17 points en 10 matchs. Il y a juste Connor McDavid qui fait mieux présentement avec 25 points en 10 matchs. Là, je fais un petit côté, là, mais Connor McDavid, là, donnez-lui tous les trophées. Donnez-lui, 25 points en 10 matchs. J'ai pas souvenir d'un joueur dominer la ligue comme ça depuis que Wayne Gretzky est à la retraite. Mario Lemieux? Non.
J'étais pas très vieux quand ces joueurs-là étaient dans la ligue, mais moi, tu sais, depuis que je suis là hockey, c'est le premier joueur que je vois dominer comme ça. Puis, tu sais, on dirait qu'on est rendu habitué.
Oui.
Tu viens de dire ses stats, 25 points en 10 matchs, on est comme bon, ben, c'est la norme, c'est Connor McDavid. Là-dedans, il y a une séquence de je sais pas combien de matchs avec deux buts par match.
Ouais, à peu près. Je pense que c'est 7-8 matchs, là, je me souviens plus. Là.
C'est rendu la norme. Là. Honnêtement, je pense qu'il n'y a plus rien qui peut nous surprendre de McDavid. On dirait qu'on s'est tous habitués.
Un joueur fait 4 points en un match, on en parle. Lui, on fait 4, puis on fait comme ah, ok, c'est correct. C'était Connor McDavid. Oui.
C'est ça. Il y a comme un standard. Lui, il y a un standard à part, là, on peut pas le comparer aux autres joueurs de la Ligue nationale. Pour vrai, c'est impressionnant. Puis, on va souhaiter pouvoir voir ça pendant quelques rondes de série au moins, parce que les Oilers, quand même l'an dernier, avaient atteint la finale de l'Association de l'Ouest. Ce serait intéressant de voir un McDavid au sommet de son art, surtout, je veux dire, il est meilleur que l'an dernier encore. Là, donc, ce serait vraiment intéressant de le voir longtemps en série.
J'ai parce que tu te souviens, le match qui est venu jouer à Montréal puis il a été blanchi, c'était la première fois je ne sais pas combien de rencontres qui se faisait blanchir. Écoute, il l'a mal pris, j'ai l'impression, parce que depuis cette rencontre-là, il y a une moyenne de 2,45 points par match. Il y en a 27 à 11 parties, 12 buts. Là, je veux dire, c'est un rythme. Je ne sais pas où ça va s'arrêter, mais la réalité, c'est que présentement, Connor McDavid est meilleur que Connor McDavid en début de saison. Ne fait qu'être de plus en plus menaçant. Je ne sais pas à quoi l'horaire des Oilers ressemble d'ici à la fin de la saison, mais il est instoppable. On vient au New Jersey. Justement, parlons-en. Dawson Mercer, ça va bien, ça va très bien présentement. Parle-moi un peu, Mercer. Bon, là, il évolue avec Meyer sur le premier trio, avec Nico Hischier. Qui forme un bon petit trio qui permet à Jack Hughes de se retrouver. Non, mes excuses, j'ai mal regardé. Mercer et Hischier avec Thomas Tatar, ce qui permet à Timo Meier d'évoluer avec Jack Hughes puis Jesper Bratt. Techniquement, pour moi, Meier, Hughes, Bratt, c'est le premier trio. Mm-hmm. Mais quand tu regardes comment le deuxième trio fonctionne, comment Hischier a vraiment pris un niveau supérieur cette année, Thomas Tatar qui profite de ses occasions. On pensait que Palat allait être dans cette chaise-là sur un des deux premiers trios, mais présentement, c'est Tatar. Mercer, tu t'attendais pas, on s'attendait pas, surtout pas à ça cette année. Il est encore très jeune.
Non, exactement. Puis, tu sais, quand il a été repêché par les Devils, on voyait déjà la ligne de centre. Je veux dire, Jack Hughes, Nico Hischier et Dawson Mercer, c'était le troisième centre parfait. C'est un joueur que même au niveau junior se comparait à un Patrice Bergeron, surtout du côté, du point de vue du jeu complet, là, du jeu défensif et tout ça. Je pense que c'était majoritairement pour ça qu'il était reconnu au niveau junior avec les voltigeurs de Drummondville, les Saguenay et Chicoutimi. Même avec l'équipe Canada junior, ça avait été un joueur de rôle plus qu'un joueur offensif. On lui avait confié des missions défensives parce que c'est l'excel là-dedans. Là, on le voit connaître une explosion offensive comme ça dans la Ligue nationale. Pour moi, c'est quelque chose qui est impressionnant, qui est étonnant un peu, mais quand tu retournes à la base, c'est un joueur qui est intelligent sur la patinoire. Mm-hmm. On a toujours vanté son intelligence hockey, la manière dont il voyait le jeu.
C'est en plus, donc, tu y mets l'effort de te développer physiquement. Si tu as des bonnes éthiques de travail en plus, physique, ouais, c'est ça.
C'est un bon point parce que Dawson n'était pas le plus gros au niveau junior. Mais là, on ajoute le poids, on ajoute les coéquipiers de la trempe de Tatar. Je sais pas avec qui il jouait de l'autre côté. Là,
Tatar et Hischier.
Ouais, c'est ça. Je veux dire, t'es bien entouré aussi.
C'est ça. Puis on l'utilise à la droite, ce qui est peut-être aussi une entrée dans la LNH dans tes 2, 3, 4 premières saisons, plutôt plus facile que d'évoluer au centre. Là.
Ben, Dawson Mercer... même niveau junior, faisait centre-aile. Donc, c'est vraiment un couteau suisse. Tu peux l'avoir au centre du troisième trio.
C'est l'autre joueur suisse des Devils, avec Simmerchuk et couteau suisse.
Ouais, c'est ça, on commence à avoir.
Ben écoute, moi je voyais Meyer finir là, parce que je trouvais que c'est le même rouge que le chalet suisse. On a Ishii, on a Jonas Siegenthaler, Akira Schmid, et là on va mettre citoyen.
On va lui donner la citoyenneté suisse parce que c'est un.
Semble-t-il que c'est particulièrement difficile d'obtenir la citoyenneté suisse. Fait que même ça se pourrait que ce soit pas suffisant. Mais vas-y.
Ben citoyenneté honorifique.
Ouais, honorifique, c'est ça.
Mais pour vrai, tu sais, il a toujours été le joueur qui pouvait jouer dans toutes les situations. Avantages numériques, désavantages numériques, troisième trio, premier trio, elle, centre. Je veux dire, Dawson Mercer peut tout faire. Donc, de ce point de vue-là, quand on passe à tout ça, c'est pas si étonnant de le voir connaître du succès quand il est placé dans une position comme celle-là. Puis au niveau des habitudes de travail, de sa maturité, je pense qu'il a toujours été, ça a toujours été plus élevé que la moyenne dans son cas. Peut-être au début, j'ai des sources là, pour ne pas le nommer Ethan Gauthier, parce que Dawson Mercer a habité chez les Gauthier pendant son séjour à Drummondville. Puis Ethan Gauthier me disait justement dans les derniers jours que Dawson Mercer, quand il est arrivé, il se demandait s'il savait se faire un œuf dans la poêle.
Ah,
donc,
ouais, hein?
Son pre-game meal, le repas d'avant-match, c'était souvent du ballonné dans la poêle. C'est ce que Ethan Gauthier a raconté. Puis oui, c'est ça, fine bouche.
Avec la moutarde, là, moi, ça me rend heureux, là, honnêtement. Là, mais bon.
C'est ça. Mais là, si tu remplaces le ballonné par un morceau de poulet et du riz, ben là, peut-être que ça donne des performances comme celles qu'on voit en ce moment dans la Ligue nationale avec les Devils. Là.
Ah non, mais c'est vraiment. Puis les Devils, j'ai. Tu te souviens-tu, c'est en décembre qu'on a connu une baisse de régime assez spectaculaire chez les Devils, puis tout le monde disait, bon, les choses sont en train de se replacer, puis finalement, c'est une équipe qui peut-être participer aux séries éliminatoires. Puis depuis ce temps-là, depuis la fin du mois de décembre, là, ça a recliqué chez les Devils. Surveillez-les. C'est une équipe qui n'est pas encore complète, qui n'a pas encore toute l'expérience, mais si ça tient devant le filet avec Vitek Vanecek, surveillez-les, mais pourquoi pas sortir les Rangers pour qui, justement, si Shesterkin, ça ne tient pas, parce que ça regarde de plus en plus pour un duel entre les deux équipes, un duel tout new-yorkais, toute grande région de New York, là, en première ronde, ce serait assez bon. Et je peux pas dire quelle équipe l'emporterait malgré les ajouts spectaculaires de Tarasenko et Patrick Kane là, du côté des Rangers. Guillaume, on va passer à la prochaine portion de notre émission. Comme je disais plus tôt, on a eu de la visite dans nos bureaux de la LNH à Montréal cette semaine avec la présence de quatre des meilleurs espoirs de la LHJMQ. Donc aujourd'hui, on vous diffuse la première portion de cette série d'entrevues-là avec deux joueurs. La semaine prochaine, on va avoir les deux autres. La semaine prochaine, donc, ça va être Matteo Mann et Jordan Tourigny. Mais cette semaine, Mathieu Catafort des Moussets d'Halifax et tu viens d'en parler, Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke. Merci. C'est parce que tu m'as mélangé avec les voix de Charlotte Drummondville tantôt en me parlant de ça. Parle-moi un peu. Tu les as suivis. Tu as un texte présentement sur le site de lnh.com. Tu les as suivis durant cette tournée médiatique-là. Nous, on était le premier arrêt, hein, si j'ai bien compris.
Oui, premier
okay,
arrêt.
OK, on était le premier arrêt. Fait que c'est le fun parce qu'après ça, ils se sont fait poser les mêmes questions par tout le monde par la suite. Là.
Exact, c'est ça. C'est exactement ça. Pour vrai, c'était la deuxième année que je suivais les espoirs dans leur tournée médiatique à Montréal. C'est un accès un peu privilégié qu'on a avec la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. Ça nous permet de les connaître un peu plus, de voir comment ils se comportent hors d'un vestiaire et tout ça. C'est une ambiance assez. Informel, je dirais.
Relax,
on se promène dans les rues de Montréal, on prend des cafés, on fait des arrêts au 98.5 à RDS. Donc, tu sais, il y a beaucoup de temps où on peut juste jaser puis voir un peu quel type de personnalité ces joueurs-là ont. Donc, oui, on était le premier arrêt. Ce que j'ai remarqué, tu sais, après ça, on est allé 98.5 avec Mario Langlois, on est allé au Hockey 360. Ethan Gauthier a fait l'antichambre. On a fait hier, c'était d'autres balados parce que ça s'est fait sur deux jours. D'autres balados sortis de zone de nos collègues de la presse. C'est là, quand c'est concentré et que tu assistes à tout ça, c'est là que tu vois que des fois, ça peut être pas lourd, mais...
Gros quand même.
Redondant.
Pour des jeunes... redondant, ouais, je te suis.
Ouais, tu sais, au niveau, tu disais des questions, je veux dire, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, puis...
Mais c'est quand même normal, parce que...
Ouais, non, c'est ça, il n'y a pas moyen de réinventer la roue, mais...
Puis surtout pour un média montréalais, mon média national, c'est bien plate, là, mais ce qui se passe avec les Saguenayens de Chicoutimi ou ce qui se passe avec les Moussettes d'Halifax, c'est éloigné, c'est très loin, donc c'est normal que les mêmes questions reviennent un peu, là.
Oui, c'est ça, c'est normal, mais de le vivre de l'intérieur, d'être un peu à leur place, parce que moi, habituellement, quand je leur parle, ben je fais mon entrevue, puis après ça, c'est terminé, mais tu sais, peut-être que eux, la journée d'après, ils ont les mêmes questions d'un autre journaliste, là, fait que là, de le vivre, tu sais, à répétition, dans un court laps de temps comme ça, c'est là que tu te rends compte que, tu sais, pour des espoirs de 17-18 ans, c'est un apprentissage quand même, là, parce que on les place devant des micros, on les place devant des caméras de télévision, puis là, c'est comme raconte-moi ton parcours, raconte-moi tes aspirations, tes rêves, tout ça. Donc, c'est de le vivre de l'intérieur, c'est quand même spécial de voir ce qu'ils vivent dans une année de repêchage comme ça, où l'attention médiatique est quand même plus élevée là, de leur côté pour la première fois de leur carrière à un jeune âge comme ça. Ouais. Surtout, j'ajouterais, dans le contexte actuel des choses, dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, les dossiers chauds sont assez nombreux.
Ouais, je dis, c'est bien plate, mais c'est pas eux autres qui ont retenu l'attention cette semaine dans tout ce qui se passe au niveau du hockey junior québécois. Là.
Non, c'est ça. La démission de Gilles Courteau, la nomination de Mario Cecchini, on a eu l'abolition de peut-être...
Dossier des bagarres, ouais, c'est ça.
On a en trame de fond les initiations, les scandales d'initiation qui suivent un peu tout ça. Fait que, tu sais, dans ce contexte-là, c'est un peu rafraîchissant de parler du repêchage, de parler de hockey, mais quand même, ils ont eu quelques questions sur ces sujets-là. Puis, tu sais, c'est de mettre des jeunes... Je comprends absolument, je suis journaliste moi-même, je comprends que c'est des questions qui doivent être posées, mais c'est quand même des jeunes de 17-18 ans qui sont mis sous spotlight, parfois en direct, dans des questions, des dossiers chauds comme ça. C'est quand même intéressant de voir comment ils réagissent dans des situations comme ça.
Oui, effectivement. Parle-moi, là, on a regroupé, c'est les deux attaquants aujourd'hui, donc qui vont être dans ce balado. Parle-moi un peu de chacun de leur saison, comment ça se passe pour eux.
Ben, Ethan Gauthier, premièrement...
On le connaît un peu mieux, là, à LNH.com, là, parce que...
Oui, c'est ça.
Ouais,
il fait le carnet d'espoir à chaque mois avec nous. C'est lui qui a commencé la saison avec l'étiquette de meilleur espoir de la LHMQ. Donc, c'est sûr que l'attention est sur lui. Il y a une belle histoire aussi parce que c'est le fils de Denis Gauthier, un ancien de la Ligue nationale. Son frère joue à Sherbrooke aussi, Kaylin. Il y a une belle histoire. Fait que c'est certain que c'est lui qui est un peu sous les projecteurs depuis le début de la saison. Il répond très bien. Il a eu quelques passes un peu plus difficiles.
Ouais. OK. Moi, ce que je l'ai vu, il n'a pas la langue dans sa poche. Là. C'est où ça en va quand il parle, là, mais...
Non, c'est ça. Puis, tu sais, je pense qu'il a grandi quand même en voyant son père à la télévision. Là. Puis, ça paraît, là, les deux frères Gauthier sont vraiment à l'aise devant les caméras, devant les micros. Ils n'ont aucun problème à jaser. Puis, donnent des réponses très, très étoffées quand même. Donc, du côté d'Étienne Gauthier, sur la patinoire, ça se passe bien. Il n'y a pas eu beaucoup de séquences difficiles. Il a réussi à gérer quand même les attentes avec l'attention qui vient avec cette année de repêchage-là. Ça se passe très bien. Le Phoenix de Sherbrooke, qui est évidemment une des meilleures équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui aspire aux grands honneurs cette année. Donc, c'est un joueur qu'on pourrait voir longtemps au printemps. Ça pourrait être bon justement pour sa valeur au repêchage au niveau des recruteurs. Surtout que c'est un joueur qui, oui, a beaucoup de talent offensif, mais qui se distingue surtout par son acharnement, son style de jeu un peu physique, robuste. Fait que je pense que dans des moments comme les séries éliminatoires, c'est là qu'on va voir la vraie nature d'Ethan Gauthier. Si je vais du côté de Mathieu Catafor, du côté des Moussettes d'Halifax, ça va super bien là aussi. On était, je sais pas s'il y a eu des matchs de disputer, mais en tout cas, après la fin de semaine, on était à égalité au premier rang du classement général dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Mathieu Catafor, qui est cette année, parmi les espoirs admissibles au repêchage, qui est le plus productif, vraiment produit sur une base régulière. On a beaucoup d'éléments offensifs à Halifax, mais ce qui ressort de son côté depuis son arrivée dans la Ligue, c'est que c'est lui qui fait l'impact sur un trio. Là, on a souvent pensé que bon, il a joué avec Jordan Dumé, qui est le meilleur pointeur de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, on se disait, c'est peut-être ça qui fait en sorte qu'il produit tout ça. Mais son entraîneur, chaque fois que je lui parle, Sylvain Favreau, dit vraiment que c'est Mathieu Cathafort qui est la bougie d'allumage de son trio. Un peu le même style de jeu qu'un Ethan Gauthier, dans le sens où il n'a pas peur du jeu physique, de salir le nez, d'aller dans les endroits payants. C'est pas un joueur purement offensif, purement qui se fie à ses habiletés. Donc vraiment deux beaux espoirs. Puis tu sais, du côté de Cathafort, je pense qu'avec la saison qu'il connaît en ce moment, puis jumelé à sa fin de saison de l'an dernier, ben on découvre un joueur très offensif. Donc, ça va être intéressant de voir s'il va peut-être grimper dans les différents classements d'ici la fin de la saison, surtout que lui aussi dans une équipe qui pourrait jouer encore bien longtemps au printemps.
Donc, voici notre entrevue avec Ethan Gauthier et Mathieu Cathafort. Nos invités aujourd'hui sur le balado de la tasse de café, Ethan Gauthier du Phoenix de Sherbrooke et Mathieu Cathafort des Moussettes d'Halifax. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Salut, ça va bien?
Ça va bien, ça va bien. Les gars, merci d'être avec nous aujourd'hui au QG de la Ligue nationale de hockey à Montréal. Vous êtes en tournée médiatique avec les différents médias, David. Parlez de votre année, parlez de ce qui se passe avec vous autres, parce que vous êtes quand même les deux des beaux espoirs de la LHJMQ pour le prochain repêchage de la Ligue nationale. Ethan, on commence avec toi. Comment ta voix présentement, ta saison? Bon, 57 matchs joués, 62 points. Tu es classé 14e au niveau du bureau central de la LNH. Parle-moi de ta saison, comment ça va?
Ça va bien, pour vrai. J'ai eu un excellent début de saison comme que je voulais. Je pense qu'au niveau de l'équipe ici, on a une excellente équipe qui a une chance de gagner la Coupe cette année. Fait que c'est sûr que c'est le fun de faire partie d'une équipe qui aspire aux grands honneurs. Puis pour ma part, personnellement, ça va. J'ai eu un excellent début de saison. J'ai eu peut-être une séquence un peu plus difficile avant Noël. Puis en revenant, mais dernièrement, je suis revenu sur le droit chemin. Fait que en général, je suis vraiment content. Puis je pense que juste continuer de progresser pour les séries puis avoir une bonne fin de saison.
Tu parles des séquences un peu plus difficiles. Est-ce que tu as senti un peu plus de pression dans ces moments-là, étant donné que tu as commencé l'année avec l'étiquette de favori dans la LHMQ et tout ça? Est-ce que ça t'est venu en tête à un certain moment?
Peut-être inconsciemment, je te dirais, plus que d'autres choses. Tu sais, c'est certain que tu sais que c'est une grosse saison. Fait que quand ça va moins bien, c'est facile de penser justement au repêchage et à ce qui s'en vient. Mais tu sais, j'essaie de pas trop m'en faire avec ça, mais comme j'ai dit, je pense qu'inconsciemment, ça se peut que ça soit comme une petite pression que je me mettais quand ça allait moins bien, mais c'était plus trouver des solutions de sortir de ces moments plus difficiles que je cherchais dans des moments comme ça. Fait que j'essaie vraiment de revenir à ma game, de revenir à mon identité, de garder ça simple, puis c'est là que les choses revenaient à normal.
Mathieu, toi aussi, ça va bien. Présentement, tu es l'espoir le plus productif de la LHJMQ au niveau de... Ben, ta production, là, les points, tout ça, t'en as 69 dans tes 59 matchs que tu as joué cette année. Tu es classé 27e au niveau du bureau central de dépistage de la LNH. Tu as le plateau des 30 buts que tu viens d'atteindre. Est-ce que ça correspond un peu à ce que tu avais comme idée de ta saison, le type de performance que tu pouvais livrer?
Ben, je suis sûr que l'année passée, je pense que j'avais fini la saison sur une bonne note. Puis je voulais vraiment partir sur le même pied la saison de 2023. Donc, je pense qu'avec le repêchage aussi, c'est important, comme Ethan a dit tantôt, juste avoir un bon début de saison. Puis, je pense que juste aussi côté équipe, ça va super bien. Je pense qu'on surprend beaucoup de monde. Puis, je pense qu'on va avoir une bonne chance en série cette année. Puis, côté personnel, je pense que c'est sûr, j'avais un objectif, je dirais peut-être avoir au-dessus d'un point par match. Puis, je pense que c'est sûr que c'est le fun d'avoir atteint cet objectif-là. Mais je pense que c'est juste de continuer à chaque jour d'essayer de s'améliorer, pas juste du côté des points, mais aussi des deux sens de la patinoire.
Ça a été quoi l'impact de cette fin de saison-là l'an dernier? Tu disais que tu as eu une grosse fin de saison. On a les stats ici, 23 matchs, 10 buts, 19 passes, 29 points. Comment est-ce que tu t'es servi de ça dans ta préparation estivale puis dans l'amorce de cette nouvelle saison au niveau de la confiance et tout ça?
Je dirais, c'est sûr qu'en allant au Elenka Gratzky, c'est sûr que ça m'avait donné beaucoup de confiance la fin de saison. Puis je pense qu'après ça, juste en arrivant à Halifax cette saison, je savais que je pouvais en donner encore plus que l'année passée. Puis je pense que juste en pré-saison, ça a super bien passé aussi. Puis je voulais juste continuer dans cette bonne direction-là.
Je veux savoir, Sherbrooke, C'est plus le Palais des Sports. Ça s'appelle-tu encore le Palais des Sports? Oui, ouais, bon, j'étais plus certain. J'ai étudié au Cégep à Sherbrooke, donc on l'avait devant nous.
Ça fait quelques années, quand
ça
même.
Ça fait quand même longtemps, mais on était. Le Cégep est juste en face du Palais des Sports, donc je l'avais dans ma fenêtre quand je me levais le matin. Mais tu es bien entouré à Sherbrooke. Tu as Joshua Roy qui est là, qui est une grosse influence au sein de l'équipe. L'impact de Joshua Roy avec vous autres, tu le qualifierais comment?
Énorme. Honnêtement, ouais. Je pense que Josh, depuis l'année passée, c'est un gros morceau. C'est probablement, pas mal tout tourne autour de Josh présentement. T'sais, c'est sûr que c'est une bouche d'allumage offensivement. En tant qu'équipe aussi, quand tu as un joueur comme ça, je pense que tu as assez l'utilisé à ton avantage. Pour ma part, j'ai eu l'opportunité de jouer avec au début de l'année. Puis même les deux dernières parties, là, j'ai été réuni avec Josh. Fait que c'est un joueur que je m'entends très bien. T'sais, on a développé une chimie à force de se côtoyer puis de jouer ensemble. Puis non seulement en tant que joueur, mais c'est une personne qui est extrêmement respectée puis appréciée de ses coéquipiers. Fait que c'est sûr que quand tu as un joueur de moi dans ton équipe, comme j'ai dit, c'est sûr que tu essaies d'en profiter pour ma part de juste me coller sur lui puis essayer de le suivre dans les pratiques. Puis tout ça. Fait que c'est sûr que c'est le fun.
Il y a eu Josh, il y a des vétérans aussi dans votre équipe, dont ton frère Kaylen. On s'en était parlé en début de saison, l'influence qu'il y a eu dans ton parcours, mais de vivre cette grosse année-là de repêchage à ses côtés, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Comment tu as vécu ça, puis quel impact ça a eu sur ton année?
Oui, c'est sûr que c'est assez spécial. J'ai eu la chance de t'en parler aussi un peu plus tôt cette saison, mais à quel point il a été un élément déclencheur, si on veut, de ma carrière plus jeune. Je l'avais peut-être un peu plus facile, un peu plus assis sur mon talent. Puis c'est vraiment lui qui a été là pour me ramener sur le droit chemin, là, si on veut, là, de juste travailler, puis mettre les efforts, puis tout ça. Fait que de pouvoir vivre ces moments-là avec lui cette année, puis l'année passée aussi, c'est quelque chose qu'on sait qu'on n'aura sûrement pas la chance de revivre dans les prochaines années ou d'ici la fin de notre carrière. Mais d'avoir la chance d'aller jusqu'au bout ensemble pour une dernière saison, je pense que c'est. C'est tout ce que lui voulait, c'est tout ce que moi aussi je voulais, là, de juste profiter de ces moments-là. Essayer de gagner une coupe ensemble, je trouve que ce serait quelque chose d'assez incroyable.
Mathieu, on en parlait tantôt de tes statistiques cette année, à quel point ça va bien. Ça va être quoi, à ton avis, ton prochain défi pour amener cette production-là offensive au prochain niveau? On parle, c'est dans 2, 3, 4 ans, mais ça va être quoi le principal défi pour amener cette production-là plus loin?
Je pense que ça va être quelque chose que j'essaie de travailler depuis une couple de saisons. C'est mon explosion, mes trois premiers coups de patin. Je pense que la Ligue nationale, ça commence à être une ligue vraiment très rapide. Mm-hmm. Puis à chaque année, on voit que ça s'améliore encore plus. Fait que je pense que c'est juste d'améliorer ma vitesse. Mais sinon, jouer des deux côtés de la patinoire sans la rondelle, je pense que c'est aussi quelque chose que les recruteurs portent beaucoup attention. Puis je pense que c'est quelque chose qui est très important.
Ton entraîneur est vraiment satisfait de ton travail, Sylvain Favreau. Il me disait... qui pouvait utiliser à toutes les sauces, avantages numériques, désavantages numériques. Tu t'es promené aussi beaucoup de trios, mais la production est toujours au rendez-vous. Qu'est-ce que tu penses qui fait en sorte que ta capacité d'adaptation est aussi bonne que ça en ce moment?
Je pense qu'un de mes plus grands atouts, c'est mon hockey sense. Puis je pense que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. C'est comme tu viens de dire, je suis capable de m'adapter avec n'importe qui, à n'importe quelle position. J'ai souvent changé de centre à allié cette saison, puis c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est sûr que l'année passée, c'était une des premières fois que j'étais mis à l'aile dans ma carrière, puis ça a été un peu une adaptation, mais ça s'est fait super rapidement. Puis je pense que juste, c'est qu'est-ce que je suis bon pour aider mon équipe à gagner, juste donner mon 100%. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est assez facile pour moi.
Des attentes étaient élevées quand même hein, pour le Phoenix cette année. Vous êtes à 4 points du premier rang, il reste 4 matchs. Parle-moi de cette fin de saison-là. On dit tout le temps qu'il faut piquer au bon moment. Sens-tu que cette équipe-là est en train de piquer? Puis justement, que cette coupe-là, vous l'avez, vous êtes en droit de la viser?
Oui, c'est sûr. Je pense qu'on l'a vu juste à Noël, les ajouts qu'on a faits à notre équipe. Ça a été des gros ajouts. Là. Je pense entre autres à Melançon, Brabanec, Godet. Ces trois joueurs qui sont arrivés avec nous autres, même Olivier Adam, notre gardien, des gars qui sont arrivés avec nous autres et qui ont un impact immédiat avec nous autres. On le voit, Melançon, Bramnet, qui ont été réunis à Josh pour un certain moment et qui ont connu énormément de succès. Fait que, dernièrement, je pense qu'on a eu des gros challenges aussi. On a joué contre Halifax, on a joué contre Québec, qu'on a gagné. Fait que, c'est sûr que quand tu joues contre des équipes comme ça, que tu sais que c'est des équipes qui aspirent aux grands honneurs aussi, c'est... Tu essaies de passer un message, tu veux sortir le plus fort. Je pense que c'est ça qu'on démontre dernièrement. En tant que groupe, on va avoir d'autres défis jusqu'à la fin de la saison. Deux fois contre Gatineau, deux fois contre Victo. Fait que, tu sais, je pense que c'est des games que tu veux utiliser justement pour faire un statement là, en anglais, là, tu sais, de juste prouver à tout le monde qu'on est dans la course pour gagner une coupe. Puis je pense que présentement, on est sur le droit chemin.
En terminant, Ethan, je pense qu'on ne peut pas te laisser partir sans te parler de ton père, de son influence, ton père Denis Gauthier, qui a joué plusieurs saisons dans la Ligue nationale. Comment tu as vécu cette saison-là à ses côtés? Puis est-ce que tu, au niveau de la communication, est-ce que tu lui parles souvent pour des conseils, pour tout et n'importe quoi, en fait?
C'est certain qu'il m'aide beaucoup. Je veux dire, il a vécu une carrière professionnelle. Il a vécu ici une année de repêchage comme je suis présentement cette année. Fait que c'est sûr qu'il m'aide beaucoup, pas seulement juste côté hockey, mais côté gérer la pression, les attentes, me concentrer sur les bonnes choses. Garder le focus à la bonne place, qui est de gagner une coupe, de focus sur la saison, de ce que je peux faire en tant que joueur pour amener l'équipe à un autre niveau. C'est beaucoup ça. C'est certain qu'il m'aide aussi côté hockey, mais il est bon pour détacher le père et le coach. Je veux dire, on a un coach pour une raison. Puis, quand il m'aide, c'est plus des détails qui ne sont pas dans la structure, là, des backchecks ou de driver le net, des petits détails de même qu'il peut m'aider plus que de tout ce qui est structure, parce qu'il veut pas non plus coacher, c'est pas sa job. Fait que c'est quelque chose que j'apprécie énormément de lui. Fait que c'est sûr que c'est un outil que j'essaie d'utiliser le plus possible. Comme j'ai dit, il l'a vécu, si c'est quoi que ça prend, puis de l'avoir à côté de moi, c'est une chance que j'ai, puis j'essaie d'utiliser le plus possible.
Parce que t'as ton père, mais bon, t'as un cousin aussi, Julien Gauthier, qui était avec les Sénateurs d'Ottawa. Parle un peu, y a-tu?
On se parle pas beaucoup. On s'est parlé dernièrement, sûr, avec son échange puis tout ça. Puis il m'a dit qu'il allait venir au repêchage ici à Nashville. Fait que c'est sûr que ça va être le fun de profiter de ça avec. Puis en grandissant, c'est sûr que je l'ai côtoyé quand même beaucoup. Là, je sais à quel point il s'entraîne fort, son éthique de travail, tout ça, c'est toutes des choses que j'ai pu prendre de lui un peu en le côtoyant, ça c'est certain.
Parce que quand même, dans ta famille, ça remonte quand même large, ta grand-mère, attends une minute, ça veut dire c'est les frères à tes grand-mères, les Rougeaux, Jacques Raymond Rougeau, ta grand-mère aussi qui a été impliquée dans le monde de la lutte. Ensuite, ton père, t'as quand même. Il y en a des Gauthier qui ont. La famille élargie qui ont connu quand même. J'ai juste le temps en anglais, ils ont été sur le spotlight, là, si on veut.
Oui, c'est certain. Comme tu l'as dit, les Rougeaux, ils ont été des gros éléments de la lutte. Le père à mon père aussi. T'es culturiste, il a fait de la lutte aussi. Mm-hmm. Le frère à mon père, était culturiste, homme fort dans ces affaires-là un peu. Fait que, c'est certain que c'est une famille qui a grandi dans le sport, dans le hockey, dans la lutte, tout ça. Fait que j'ai un peu la génétique, si on veut, de ça.
C'est-tu qui était dans la lutte? Il y a Raymond, il y a Jacques, c'est Armand ou c'est...
Oui. En tout cas, peu importe. Même moi, je suis pas certain.
C'est pas grave. Ça remonte quand même à longtemps un peu. Là. Mathieu, on te ramène. On a parlé de tes statistiques. C'est une chose, les statistiques, mais on te vante beaucoup pour ton sens de la compétition, ton désir de gagner. Ça a-tu toujours fait partie de ton identité ou c'est quelque chose qui est arrivé que tu as vraiment développé dans les dernières années?
Non, je dirais que ça a tout le temps été quelque chose qui a fait partie de moi tout le temps. La victoire était plus importante que mes statistiques personnelles. Puis je pense que, mettons, je me rappelle quand j'étais plus jeune, mettons, une finale d'un tournoi que j'aurais pas eu de points ou que j'aurais mal joué, si on avait gagné, j'étais super content pareil. Puis pour moi, ça ne changeait rien. Puis je pense que c'est quelque chose qui fait tout le temps partie de mon identité. Puis c'est pour ça que je me sacrifie autant pendant les parties pour essayer de gagner des matchs.
Mathieu, une question peut-être que tu es tanné d'entendre. Je sais que cette saison, il y a eu beaucoup de doutes sur les Mooseheads. Chaque fois que vous veniez au Québec, c'est comme vous êtes où vous êtes dans le classement parce que vous jouez dans une section un peu plus facile. C'était ça qu'on entendait.
Mais pas fin de dire ça, Guillaume.
Ben non, mais moi, je rapporte ce qu'on entend. Là. C'est pas moi qui disais ça.
Il y a Ethan à côté qui regarde, qui sourit. Ça,
mais de votre côté, comment vous avez vécu ça, ces doutes-là, puis comment tu trouves que vous avez répondu à ça?
Ben, c'est sûr que ça nous a tout le temps servi de motivation. Je pense que chaque fois qu'on jouait contre une équipe du Québec, c'est sûr qu'on entendait tout le temps ça va être un bon challenge pour eux. On va voir qu'est-ce qu'ils ont dans le Mais je pense que si on regarde cette année, on a battu deux fois Québec, on a battu une fois Sherbrooke, une fois Gatineau, fait que Victoriaville aussi. Fait que les grosses équipes, on les a prouvé qu'on était capable de les battre aussi. Puis je pense que c'est juste une preuve qu'on n'est pas une équipe à laisser tomber dans les séries éliminatoires.
Mathieu, Ethan, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va commencer par vous souhaiter bonne chance pour séries éliminatoires, la Coupe, tout ça. Ensuite, le repêchage qui s'en vient... par la suite cet été. Donc, on va vous suivre. Hey, Guillaume, tu parles avec Ethan assez souvent. Merci.
Ouais,
au niveau du carnet d'espoir, une fois par mois, que vous pouvez lire sur le lnh.com. Merci encore, messieurs, d'avoir été là aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Alors voilà, c'était notre entrevue avec Mathieu Catafor et Ethan Gauthier. Comme on vous disait, sont habitués de parler devant les micros. Puis ça se sent, hein, c'est pas des réponses. Il n'y a pas d'hésitation. Les deux jeunes savent où ils s'en vont. Donc ça va être à suivre. Leur saison va être à suivre. Lequel des deux? Parce que avant, tu disais que c'est deux espoirs qui ont quand même des similitudes. Donc il faudra voir est-ce qu'on a une course entre les deux pour le repêchage. Qui sera repêché le premier? On verra ça dans quelques mois à Nashville, le 28-29, si je ne me trompe pas, juin, en direct du Bridge.
Dans
ces eaux-là, en direct, donc après la Saint-Jean, avant la fête du Canada. Tout ça en direct du Bridgestone Arena à Nashville. Guillaume, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Merci à toi, Nick.
Chers auditeurs, prochain balado la semaine prochaine, donc 4 en 4, vous allez pouvoir nous écouter. On aura l'entrevue avec Matteo Mann et avec Jordan Tourigny la semaine prochaine. Donc suivez-nous, abonnez-vous sur les plateformes de diffusion pour être certain de ne rien rater. Guillaume, merci encore d'avoir été là. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.